Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 15 mars 1988.
Qu'est-ce qui est préférable? Une éthique religieuse, la charité fraternelle ou l'amitié, s'il faut choisir. Si les deux amis sont devenus renfermés sur eux-mêmes, donc ils ne sont plus des amis, en ce sens-là, est-ce que cette amitié peut supprimer la charité? Ah, vous voyez, très important ça. Il est bien évident. Oui, nous sommes dans une éthique religieuse, pas surnaturelle et chrétienne. Or, on parle ici de charité fraternelle. Je présume que c'est chrétien. Donc, l'objection tombe. Faut s'habituer, hein, dans l'éthique chrétienne. Apparaît le problème du mystère de la charité fraternelle. Est-ce que dans l'éthique religieuse, il y a la charité fraternelle? Au sens vertu de la charité fraternelle. Non. Le verrons plus loin. Petit à petit, nous progressons. Et je réponds quand même immédiatement à ça, puisqu'il ne faut pas laisser le cœur en suspens, n'est-ce pas? Donc il faut essayer de comprendre. Mais cette question-là est une question d'éthique chrétienne. Je dis ça tout de suite, parce que c'est bon, il faut s'habituer à ça. Hein. C'est le propre de la philosophie. C'est déguiser notre intelligence pour bien saisir les niveaux d'intelligibilité divers. Tout en voyant l'unité dans notre vie. Notre vie est une vie chrétienne. Ce que nous sommes ici. Notre vie est une vie chrétienne. Notre vie chrétienne assume une éthique religieuse qui assume une éthique humaine. Je l'écris pour que vous voyez mieux les niveaux. Donc, une éthique chrétienne. Éthique chrétienne, c'est justement regarder Jésus, notre sagesse, la croix. La croix de Jésus, notre sagesse. Tout est là. Et dans cette éthique chrétienne, il y a le problème de la charité fraternelle, telle qu'on l'appelle, qui est une vertu théologale. La charité fraternelle, c'est l'agapé, c'est une vertu théologale. Aimer Dieu et aimer le prochain, c'est la même vertu. À ce moment-là, se pose le problème de la charité fraternelle et de l'amitié humaine. Je suis tout à fait d'accord qu'elle a un très gros problème. On va y revenir tout de suite. L'éthique religieuse, c'est l'éthique qui regarde le Créateur. C'est à partir du Créateur. Notre âme spirituelle créée par Dieu. Est-ce que le problème de la création va modifier notre amitié humaine? Nous n'avons pas encore vu. Nous avons vu les vertus qui apparaissent. Ça, c'est important. Les nouvelles vertus. Hein? Les nouvelles vertus que nous avons vues, nous avons vu la vertu La vertu de religion. La vertu de, avec l'adoration. Et nous avons vu que l'adoration, c'est ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'éthique religieuse, dans la lumière du Créateur. Cette adoration va faire naître en nous un regard nouveau sur le prochain, l'humilité. Et ce regard nouveau d'humilité nous donne un nouveau regard, la miséricorde. Voilà les vertus nouvelles. La vertu de religion, c'est quelque chose de très caractéristique, très fondamental. Puis l'éthique. Je ne dis pas laïque, parce que j'aime pas. J'aime pas la laïcité, c'est affreux. J'aime mieux dire l'éthique humaine, parce que la laïcité est fermée. L'éthique humaine est ouverte. La laïcité, c'est clos. C'est pour ça que c'est insupportable. Vous voyez, c'est insupportable, parce que c'est en sept contrats vis-à-vis de l'attitude religieuse. Et c'est vrai, c'est né en sept contrats, en opposition. On a voulu avoir une éthique laïque. Et un petit peu comme Descartes a voulu avoir une philosophie propre contre les théologiens. Alors on pousse jusqu'au bout, il faut non seulement une métaphysique propre, mais même une éthique propre. Et alors l'éthique laïque s'est née avec cette séparation, cette opposition avec l'éthique chrétienne. N'a pas pensé à l'éthique religieuse. Si on avait été intelligent, on aurait pensé à l'éthique religieuse. Mais quand on est dans sept contrats, on n'est pas intelligent. Et la laïcité n'est pas intelligente. Ça, vous verrez, que tous les gens qui sont de la laïcité ne sont pas intelligents. Il faut foncer dedans. Philosophiquement parlant, parce qu'ils oublient quelque chose qui est capital, c'est que l'homme est naturellement religieux. La laïcité va engendrer les idéologies athées. C'est du positivisme aujourd'hui, la laïcité. Constamment. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas intelligent. Parce que ce n'est pas intelligent d'être positiviste. L'idéologie positiviste est une des œillères terribles. Et c'est très caractéristique de la France. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Au Liban, ça n'existe pas, ça. D'autres choses. Ils n'ont pas connu Descartes. Ils n'ont pas connu la laïcité. Ils n'ont pas connu la prise de la Bastille. Ils n'ont pas connu tout ça. Alors, de fait, ils sont libres. Tandis qu'en France, c'est très marqué, ça. C'est un phénomène très typiquement français, ça. Il faut le reconnaître et il faut enlever ce carcan qui est bête. Il faut dire les choses comme elles sont. La laïcité n'est pas intelligente. Hein. Alors disons l'éthique humaine. Vous voyez, voilà les trois niveaux. Un, deux, trois. Alors, nous vivons à ce niveau-là. C'est pour ça que, vous voyez, on hésite toujours de commencer par l'éthique chrétienne. Et j'aime mieux au plan philosophique, pour être dans un aspect d'analyse, d'enseignement, de voir ce que nous pouvons dire au plan philosophique à ce niveau-là, ce que nous devons dire à ce niveau-là, et ce que nous devons dire à ce troisième niveau. Et c'est là où on découvre ce que c'est que la philosophie chrétienne. La philosophie chrétienne est premièrement une éthique chrétienne. Alors, l'éthique humaine, c'est l'éthique de l'homme face à l'homme. Vous voyez ? Donc, l'homme face à l'homme. Ce cette éthique humaine n'est pas fermée par rapport au problème de la création, puisque l'homme est une créature. Donc, ici, c'est l'homme créature de Dieu créateur. Donc, face, l'homme face au créateur, face au transcendant, au créateur, en dépendance de toutes les traditions religieuses. C'est pour ça qu'on est obligé de se poser le problème. Toutes les traditions religieuses. Vous voyez, la laïcité a des a priori effrayants. Puisque les traditions religieuses, rien. C'est quand même terrible. Vous voyez, on voudrait que l'homme soit une génération spontanée. Un petit étard. Génération spontanée. C'est pas grand chose, c'est la génération spontanée, l'homme. L'éthique laïque, c'est très sec. La laïcité, c'est pas très drôle. Et la laïcité prétend être indifférente, elle l'est jamais. Parce que l'éthique humaine est une éthique ouverte à l'éthique religieuse. Et alors, en réalité, vous avez ces deux moments-là qui sont proprement philosophiques. Et je ne peux pas m'arrêter à ce premier moment. M'arrêter à ce premier moment d'une éthique humaine, c'est oublier que l'homme est une créature et que l'homme est capable de découvrir l'existence de Dieu. Alors, tradition religieuse ou la métaphysique qui me fait découvrir l'être premier. Dieu, pas l'architecte suprême, l'être premier. C'est très important de comprendre ce que c'est que l'éthique religieuse. Et comprendre que la laïcité comme telle, enfermée sur elle-même, c'est un non-sens au point de vue humain. C'est un peu farouche là-dessus. Il faut le faire avec quand vous êtes en face de quelqu'un de la laïcité. Faut être très très attentif et très intelligent pour ne pas les enfermer. Et on doit les ouvrir. Donc parlons de l'amitié. Eux parlons de la philanthropie. Parlons de l'amitié. Parce que c'est par l'amitié que l'éthique humaine prend toute sa force. Vous voyez, quand je suis dans la philanthropie, la philanthropie ne conduit pas beaucoup à l'aspect religieux, tandis que l'amitié conduit. C'est ça qui est très curieux. Donc, l'homme face à l'homme, j'ai comme vertu donc l'amitié, l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié implique les vertus cardinales. Les vertus cardinales. Vous voyez bien les vertus cardinales, ce que c'est que les vertus cardinales. Ça, il faut le savoir quand même. Toutes les philosophies respectent les vertus cardinales. C'est l'œcuménisme philosophique. Je crois. La prudence, la justice, la force, la tempérance. Quatre vertus cardinales. Les quatre vertus cardinales qui sont le fondement de tout amour d'amitié. Et vous voyez, je ne regarde, au point de vue éthique, je ne regarde la justice qu'à travers l'amour d'amitié. L'autre jour, c'était intéressant, c'est à Lyon. Donc on me demandait de présenter un peu ce que c'est que l'éthique telle que vous pouvez la voir. J'étais en face donc de celui qui est là, qui est un peu le maître à penser de tous les gens, c'est un kierkegaardien. Donc il est kierkegaardien. Et il essaie de faire penser que l'éthique ne peut être que comme ça. Il a écouté avec beaucoup d'attention, du reste. Mais la grosse obstacle, mais si vous partez de l'amour d'amitié, vous ne pouvez pas arriver à l'universel. Il faut partir de la justice. L'éthique, c'est la justice. Et là, Platon a très bien vu que l'éthique, c'était fondée sur la justice. Vous voyez, alors, par la justice, on rejoint Kant, puisque l'impératif catégorique, tu dois faire ça, c'est le droit de l'autre. Et l'amitié reste quelque chose de personnel, donc ce n'est pas philosophique. Alors vous voyez bien la réponse. Hein. C'est qu'il confond l'universelle logique et le principe. Si on atteint un principe, le bien qui est l'ami, on atteint quelque chose d'universel. Mais on ne l'atteint pas comme un universel logique. Vous voyez, la logique est terrible, elle a remplacé la métaphysique. Alors, la logique nous fait croire qu'on n'a pas besoin de principes, on n'a besoin que de lois. Tant qu'on n'a pas atteint un principe, on n'a pas atteint le niveau philosophique. Et c'est la finalité. Et la finalité, elle est vraie pour tous les hommes. Et donc l'ami me permet de découvrir l'homme. Et l'amour d'amitié implique la justice. Il n'y a pas de véritable amitié sans la justice. Il n'y a pas de véritable amitié sans la prudence. Il n'y a pas de véritable amitié sans la tempérance. Il n'y a pas de véritable amitié sans la force. Les vertus cardinales sont impliquées dans l'amour d'amitié. Mais c'est très important de comprendre que c'est par l'amour d'amitié que j'aboutis aux vertus cardinales. Oui. C'est intéressant ce que je vous avais dit, quand on part de l'amour d'amitié, on ne supprime pas l'autre expérience constante de l'éthique, la responsabilité, le devoir. Mais ce n'est pas premier. Parce que vous respectez l'autre, pourquoi? Parce que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de raison de le respecter, vous savez. C'est parce qu'il y a un amour de l'homme. Or, il y a un amour de l'homme comment? Par l'amitié. Aimer universellement les hommes, oui, très bien. Ça ne dure pas très longtemps. Molière a très bien vu ça. Il dit que l'amour de tous les hommes, c'est pas mon fait. Aimer tous les hommes et prétendre que l'amour universel de tous les hommes, c'est quelque chose de premier, c'est faux. C'est l'amour d'amitié qui me maintient dans un véritable amour réel pour les hommes. Le lien entre l'amour d'amitié et la justice. Donc, on peut dire qu'ici, vous voyez, c'est l'amour d'amitié et la justice. Je suis d'accord que la justice joue un rôle très important. Fondamental, le passage de la morale à la politique, c'est la justice. Et dans le point de vue de l'éthique humaine, la justice joue un rôle très important. Respecter le droit de l'autre. Respecter le droit de l'autre. C'est dans ce sens-là qu'à ce niveau-là, je n'ai pas le droit de tuer. C'est vrai. Je n'ai pas le droit d'égorger un tout petit. Plus petit que moi. L'avortement. Je n'ai pas le droit. Et c'est dans la perspective de l'amour d'amitié que je peux comprendre l'interdiction de tuer mon prochain. S'il n'y a pas l'amour d'amitié, très vite, mon amour perdra sa force. Donc, vous voyez, il y a toujours ce plan derrière. Hein. Parce que je ne peux pas étudier l'éthique sans, de fait, voir ces trois dimensions. C'est impossible. Parce que je fais une éthique dans dans un climat chrétien. Si je faisais une éthique chez les bouddhistes, je pourrais ouvrir une école bouddhiste. Il y en a une pas très loin d'ici, on pourrait faire venir un bouddhiste, dire qu'est-ce que c'est que l'éthique pour vous? Bon, il prendrait que ces deux niveaux-là, s'il est intelligent. Si je demandais à quelqu'un qui est en dehors d'une perspective religieuse, un laïc, de la laïcité pure, de me dire qu'est-ce que c'est que son éthique, il vous donnerait une éthique laïque qui reposerait sur la justice. Ce serait une éthique extraordinairement froide, au fond très kantienne. Ça reposerait sur ça. Alors on lui ferait comprendre que ça n'est pas véritablement l'éthique, parce que la justice ne vous finalise pas. Je regrette, moi je ne suis pas finalisé en payant mes impôts. Je ne suis pas finalisé en respectant ceux qui sont autour de moi. Donc je n'ai pas encore atteint ce que c'est que l'éthique. La justice, c'est très bien, mais ça ne me finalise pas quand même. Respecter l'autre qui est en face de moi, c'est très très bien, mais ça ne me finalise pas. C'est pas respecter les droits de l'autre qui me finalise. Donc la justice n'est pas première, c'est l'amour d'amitié qui me finalise. Or il n'y a d'éthique que s'il y a une finalité. L'éthique philosophique, vous comprenez bien, une réflexion philosophique, que s'il y a une finalité. Faut bien comprendre que l'adoration apporte alors grâce à la vertu de religion. Et c'est là où il y a un parallélisme, vous voyez, entre la vertu de religion et la justice. Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est l'amour. Et l'amour d'amitié. La justice s'épanouit dans un amour d'amitié. Il n'y a pas d'amour d'amitié sans justice. Ça, c'est très vrai. Le jour où vous ne respectez plus les droits de votre ami, vous tuez l'amour d'amitié. Ça devient de la tyrannie. Tu es mon ami, donc j'ai le droit de te tuer. Et le jour où vous dites ça, vous dites, j'ai compris ce que c'est que l'amour d'amitié. Tu meurs de faim, donc tu veux me tuer. C'est pas ça, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié implique le respect de l'autre. Et donc implique la justice. Et cette justice à l'égard de l'autre, s'il y a un autre que je découvre, je le respecte, je l'honore, je l'adore, puisqu'il est mon Dieu. Alors vous voyez comment la justice me conduit à la vertu de religion par le point de vue de l'adoration. C'est pas la même chose, payer ses dettes et adorer. Et pourtant, il y a quelque chose de semblable. Il y a le jus, le droit. Le droit de l'autre, le droit du Créateur, le droit du Créateur, parce qu'il est source de mon être, il a tous les droits sur moi, et je le reconnais et je l'aime. Dans l'adoration, il y a un amour nouveau à l'égard du Créateur, qui s'exprime à travers des actes religieux d'adoration. L'adoration me permet de découvrir l'humilité, permet de découvrir le point de vue de la miséricorde. Nous verrons progressivement si dans l'éthique religieuse, il y a quelque chose de changé dans l'amour d'amitié. Si je ne le vois pas, vous le rappellerez. Parce que c'est intéressant. Mais je ne le vois pas tout de suite. Je vois d'abord l'éclosion des nouvelles vertus. Puis ensuite, je me demanderai, est-ce qu'il y a transformation des vertus cardinales et de l'amour d'amitié. Voyez, dans l'éthique religieuse, le problème de l'amour d'amitié ne se pose pas immédiatement. Tandis que dans l'éthique chrétienne, le problème de l'amour d'amitié se pose tout de suite par rapport à la charité fraternelle. J'espère que vous voyez bien. Alors, la question, qu'est-ce qui est préférable dans une éthique religieuse, la charité fraternelle ou l'amitié? s'il faut choisir. Vous voyez que le problème se pose en éthique chrétienne. En éthique chrétienne, le problème se pose. Évidemment, le problème est tout de suite résolu. Hein. C'est la charité fraternelle qui prime. Si on aime le Christ. Et s'il y a rivalité entre les deux, ça prouve qu'au fond, vous aimez mal l'autre. Le jour où le prochain s'oppose à Jésus, le prochain n'est plus le prochain. Il devient un idole. Il peut devenir un idole. Vous pouvez très bien considérer un ami comme un idole. Ah, je t'adore. Hein, oui, on dit ça, vous savez, même d'un petit chien. Alors à ce moment-là, le petit chien devient rival de Dieu et du Christ, puisque vous l'adorez. Et il y a des gens qui adorent leur petit chien. Alors ils adorent aussi leur ami. Ils l'adorent parce que le petit chien procure une joie extraordinaire. Il est tout le temps là à me regarder. C'est adorable. Et mon ami, ah, il est tout le temps là à me regarder. C'est adorable. Tandis que Dieu, je ne le vois pas. Vous voyez, le niveau sensible qui fait qu'on croit que l'amour d'amitié passe avant la charité fraternelle. Donc, si les deux amis sont devenus renfermés sur eux-mêmes, ah, l'amitié qui fait que les deux amis se regardent tout le temps. Renfermés sur eux-mêmes. Est-ce que c'est l'amour d'amitié? Dans l'amour d'amitié véritable, on ne peut pas être enfermé sur soi. Pourquoi? Parce que l'ami est aimé pour lui-même. Tandis que quand on dit que les deux amours, les deux amitiés se renferment sur eux-mêmes, ça veut dire que tout simplement, j'aime l'autre en tant qu'il m'aime. Et à ce moment-là, vous savez, c'est exactement ce qu'on voyait l'autre jour à Rimont, ces deux petits vieux qui disaient « on s'aime tellement, on s'aime tellement, on s'est aimé toute notre vie, que le jour où on comprendra qu'on commence un tout petit peu à diminuer, mais on va demander de mourir ensemble. C'est ce qu'il y a de plus beau de mourir ensemble. On peut aujourd'hui entrer dans une clinique et puis demander qu'on meure ensemble. C'est admirable. Et on trouvait ça l'apothéose de l'amour d'amitié. Ah oui, cet amour d'amitié, hein, qui fait qu'on veut mourir ensemble. À ce moment-là, vous voyez bien que l'ami n'est plus véritablement l'ami. Parce que je n'aime pas l'autre pour lui-même, au-delà de moi. Je l'aime en fonction de moi. Donc c'est plus l'amour d'amitié. Et c'était dit, hein, c'était affirmé comme ça, pour montrer quelque chose d'admirable qu'on a aujourd'hui, qu'on peut commander à la mort. Je vais décider de mourir tel jour. Et celui que j'aime, il faut qu'il meure le même jour. Comme ça, on termine notre vie ensemble. Vous voyez, la mort de l'amour d'amitié qui fait qu'on n'a plus ce dépassement à l'égard de l'autre. C'est l'absolu du vécu. L'amour d'amitié n'est pas le vécu. Le vécu, c'est l'immanence. J'aime mon ami dans la mesure même où il me procure de la joie par sa présence. Il m'apaise, il me calme. C'est le vécu d'amitié. Le vécu d'amitié fait qu'on s'enferme l'un sur l'autre. Et c'était dit admirablement, c'était gentil de voir ces deux petits vieux, parce que c'était audiovisuel. C'était très gentil de voir ces deux petits vieux se regarder, et on voyait qu'ils ne s'aimaient plus du tout. Pour arriver à dire ça, il ne faut plus s'aimer du tout, quoi. C'est terrible. Vous voyez? C'était présenté à titre de modèle. De montrer, mais vous voyez, cette possibilité de faire qu'on meurt ensemble. Et on se réveille de l'autre côté ensemble, ça. Je sais pas ce qui se passe, alors là. Tout d'un coup, on doit se remettre devant une vérité un petit peu différente. On n'y pense pas. L'amour d'amitié étouffe tout. Donc, au fond, vous voyez, quand deux amis sont devenus renfermés sur eux-mêmes, eh bien, vous pouvez dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'amitié. Véritable. Parce que vous n'aimez plus l'ami comme celui qui vous dépasse. Un amour d'amitié n'est jamais fermé sur lui-même. Il est ouvert. Et ça, c'est le chef-d'œuvre de la morale laïque, d'arriver à dire qu'on va s'aimer pour mourir ensemble, et que c'est ce qu'il y a de plus beau de mourir ensemble. Alors, comprenez ça, il arrivera un moment où l'humanité considérera qu'il vaut mieux tous mourir ensemble. Et on fera sauter la planète pour mourir ensemble. C'est exactement le même raisonnement. Mais à quoi ça aboutit? Pourriez-vous répondre à la question suivante, s'il vous plaît? L'éthique religieuse, oui. L'éthique religieuse. En éthique religieuse, peut-on parler de vertu de pauvreté? Si oui, se distingue-t-elle de l'humilité? Oui, d'abord, il n'y a pas de vertu de pauvreté au sens absolu. Il y a un état de pauvreté. Au sens précis, il n'y a pas de vertu de pauvreté. La vertu de pauvreté n'existe même pas en terre chrétienne. C'est l'humilité, la vertu. La pauvreté est une béatitude. C'est bien plus qu'une vertu. C'est un état. Alors, la question va se poser. Hein. Pouvons-nous parler, c'est bien la question, c'est très bien de poser cette question-là. Pouvons-nous parler de la pauvreté comme un état? Eh bien, je ne crois pas qu'en éthique religieuse, on puisse parler d'un état de pauvreté. Je crois que l'état de pauvreté est propre à l'éthique chrétienne. Est-ce que Jean-Baptiste, c'est pas un peu plus que l'éthique chrétienne, que l'éthique religieuse? C'est une éthique qui est commandée par la foi, l'attitude de Jean-Baptiste. C'est pas uniquement un bon, Jean-Baptiste. C'est un bon très particulier, vous savez. C'est un bon intelligent. Extraordinaire, Jean-Baptiste. Il est tout entier tendu vers celui qui doit venir. Donc il est l'aurore de l'éthique chrétienne. Et l'aurore de l'éthique chrétienne implique la pauvreté. Avant que le soleil paraisse, il y a la pauvreté. Ça, c'est l'éthique chrétienne. L'aurore et le crépuscule. L'éthique chrétienne est enveloppée de la pauvreté. Alors, l'éthique religieuse, dans ce qu'elle a de plus profond, va conduire à la pauvreté par l'adoration. Mais si je prends l'éthique religieuse comme telle, l'humilité, je dirais l'humilité. Alors, l'humilité est une disposition merveilleuse à la pauvreté. La plupart du temps, nous avons beaucoup de peine d'entrer dans la pauvreté. Beaucoup de peine à cause d'un manque d'humilité. C'est notre orgueil qui nous empêche d'être pauvres. Mais la pauvreté au sens strict, c'est chrétien. Ça vous choque un peu. Quoi? Alors c'est l'humilité. Appelons les choses par leur nom. C'est l'humilité. L'humilité, ça va très loin, vous savez. L'humilité, ça va très loin. C'est s'effacer devant l'autre. La pauvreté va mettre quelque chose de particulier, va mettre un état. Mais vous ne faites pas le vœu d'humilité. Moi, je crois qu'il vaut mieux pas, du reste. Tandis que vous faites un vœu de pauvreté. C'est pas la même chose. C'est très curieux, mais c'est intéressant de bien voir les deux, la différence entre les deux. Vous voyez, je crois que l'humilité va s'épanouir pleinement grâce à la pauvreté. Et par la pauvreté, vous enlevez tous les gros obstacles à l'humilité. Et là, vous pourrez comprendre comment le cœur de Jésus est doux et humble. Par la pauvreté et dans la pauvreté. D'une certaine manière, vous voyez, la pauvreté va plus loin que la pauvreté. L'humilité va plus loin que la pauvreté. Et d'une autre manière, la pauvreté va plus loin que l'humilité. Il y a quelque chose qui est très intéressant à regarder. Pauvreté, humilité. Dans la mystique chrétienne, on confond constamment humilité et pauvreté. Dans la mystique chrétienne. Vous voyez, quand Sainte Thérèse dit que être humble, c'est l'amour de notre néant, et Catherine de Sienne dit quelque chose à peu près semblable, en réalité, c'est la pauvreté. Aimer notre néant, c'est la pauvreté. Parce que c'est le fruit direct de l'adoration, d'une adoration en esprit, en vérité, d'une adoration chrétienne, qui nous met dans cet état radical de petitesse. C'est pour ça que je crois. Réfléchissez-y, si vous voyez des arguments qui suffisent pour montrer ce que c'est que la pauvreté. Vous voyez, ce serait très intéressant à creuser ça. Jean-Baptiste, comme les prophètes de la première alliance, au fond vivent comme des pauvres. Mais ce n'est pas établi comme une béatitude des pauvres. C'est très particulier, c'est très individuel. Dans la première alliance, la richesse, la santé est un signe de la bénédiction de Dieu. Dans la nouvelle alliance, la pauvreté est un signe de la bénédiction du Christ. Vous voyez, il y a un passage. Et l'humilité fait la continuité. L'orgueil est le grand obstacle, bien évident, à l'humilité. Et l'orgueil conduit à l'exaltation de soi et à la faute. Ceci est commun à la première alliance et à la seconde. Et nous luttons contre l'orgueil. Et on lutte contre l'orgueil en terre chrétienne en se servant de la pauvreté. On lutte contre l'orgueil dans la première alliance par des actes d'humilité. Pourriez-vous préciser ce qui, dans l'adoration, exige de coopérer avec Dieu pour faire atteindre sa fin à toute créature? Jusqu'où doit aller cette exigence? En quoi l'adoration nous donne la responsabilité de l'autre et donc l'exigence de la miséricorde? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question. L'adoration me relie au Créateur. Puisque l'adoration me relie au Créateur et me fait comprendre que je suis totalement dépendant du Créateur, et que le Créateur actuellement crée mon âme spirituelle. Et donc je suis dans un état de dépendance absolue à l'égard de lui. Par l'adoration qui implique mon âme et mon corps qui s'offre à Dieu. Or, par mon âme et mon corps, je suis d'une certaine manière responsable de tout l'univers. Je suis roi de tout l'univers. Et donc, en adorant, j'adore au nom de tout l'univers. Par mon adoration, les étoiles glorifient le Seigneur. Par mon adoration, les petits chats glorifient le Seigneur. Vous avez déjà vu, quand vous adorez, tous les petits chats sont là à côté pour être en attitude d'attente. Parce que vous les offrez au Seigneur. Toutes les petites souris. C'est extraordinaire l'adoration. C'est cosmique. Hein? Il y a une dimension cosmique dans l'adoration. Par le corps. Parce que je suis lié. Je suis la partie la plus noble de l'univers. Et en adorant, je reconnais que tout est en dépendance de Dieu. Et donc, par l'adoration, c'est tout l'univers qui remonte vers Dieu. L'adoration a cette dimension cosmique. C'est pour ça qu'on adore sur les hauts lieux. C'est pour bien montrer ça. Il y a quelque chose de juste dans l'adoration sur les hauts lieux. C'est que tout remonte vers Dieu. L'adoration dans le temple a quelque chose de différent d'une détermination et d'une volonté de Dieu. Dieu peut dire, tu adoreras dans tel lieu. Dieu peut le faire. Normalement et naturellement, selon l'éthique religieuse, on adore dans les hauts lieux. On adore dans les lieux particulièrement grands et majestueux. Quand vous êtes en face du Mont Blanc, vous pouvez adorer. Quand vous êtes dans des lieux particulièrement grands, votre adoration prend une dimension spéciale. Dans une forêt. Adorer dans une forêt. Je comprends très bien que certains, je connaissais quelqu'un qui adorait toujours dans une forêt. Il était chrétien. Il y avait une petite note comme ça, cosmique. Et il aimait adorer. Et il m'a conduit une fois devant le chêne, qui était le lieu de son adoration. Et il aimait de se mettre là, en face de ce chêne, pour que toute la forêt remonte vers Dieu. Alors, comme il était un peu mystico, il disait, quand j'adore, tous les oiseaux cessent de chanter. Parce qu'il ne les écoutait plus. Alors, ils cessent de chanter, ils sont dans le silence de l'adoration. Là, il y avait le retour de tout vers Dieu. C'est très beau, ça. Je comprends très bien, ça. Nous avons quelque chose de plus. Nous adorons près du Saint-Sacrement. Et entre deux, il y a eu le temple de Jérusalem pour nous conduire à l'Eucharistie. Et par l'Eucharistie, nous avons quelque chose de plus que le chêne, puisque nous avons l'adoration du Christ qui nous est donnée. Et c'est l'adoration du Christ qui nous permet de remonter. Et nous remontons par l'adoration du Christ dans l'adoration d'esprit en vérité. Mais je comprends très bien qu'au niveau de l'adoration religieuse, on peut se servir du chêne. Si je n'avais pas l'aspect chrétien, je crois que je ferais comme ça. J'aimerais bien. Ou de mettre dans ma cellule petite fleur, petite rose. Et j'adorerais en me servant de la rose. Pourquoi pas? Ou un petit oiseau. On s'adore en se servant de cela. Oui.
Est-ce que c'est la même chose que l'idolâtrie ou est-ce qu'il faut...
Ah non, c'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce ne serait s'arrêter à l'oiseau. L'idolâtrie serait de s'arrêter au chêne. Mais se servir du chêne, se servir de la forêt comme un milieu de vie, qui manifeste la grandeur et la magnificence de Dieu, c'est très bien. Comme le cerf du Mont Blanc. Vous voyez? Et je sens très bien que, au plan chrétien, quand je suis dans un lieu trop beau, ici il n'y a pas de danger, quand je suis dans un lieu trop beau, n'est-ce pas, je risque de vouloir toujours adorer devant ce lieu. Et j'oublie que j'ai un lieu qui est le Saint des Saints, qui est l'Eucharistie. L'adoration vous saisit dans tout ce que vous êtes. Un peu esthétique. Il saisit dans tout ce que vous êtes. L'adoration est quelque chose de cosmique. C'est vous adorez. Pourquoi vous vous mettez à plat ventre quand vous adorez? C'est un peu esthétique. Si vous étiez pur esprit, vous n'auriez pas besoin. Dire n'importe comment, mais, je... mais non, ça joue de vous mettre à genoux. De vous mettre dans un état de prostration, ça joue, ça aide. Et le chêne peut aider aussi. Dans l'adoration religieuse, hein, comprenez bien. Dans l'adoration chrétienne, je dis l'Eucharistie. Il est privilégié. Alors vous voyez comment le point de vue de ce qui m'est montré ici, jusqu'où doit aller cette exigence. Atteindre sa fin à toute créature. Je les porte et je les offre. J'offre le chêne à Dieu. J'offre le chant des oiseaux. Glorifier le Seigneur. Tous, tous. Ça fait partie de l'adoration. En quoi l'adoration nous donne la responsabilité de l'autre? L'adoration, la responsabilité de l'autre est avant l'adoration. Mais je l'offre pour qu'il atteigne sa fin, par moi, comme médiateur. Parce que je suis le roi de l'univers, par mon esprit. Et je le fais par rapport à toutes les autres créatures, et par rapport à mon ami, et par rapport à tous les hommes. Par mon adoration, tous les hommes adorent Dieu. Et c'est vrai, parce que j'atteins ma finalité. Donc tous les hommes adorent Dieu. Et parce que le fait même que j'adore tous les hommes, adore Dieu, j'ai un regard nouveau sur les autres par l'adoration. Je comprends que chacun est relié immédiatement à Dieu et aimé d'un amour unique. D'où l'humilité, d'où la miséricorde. C'est l'heure. Encore une minute. Pas tout à fait. Hein. Mon père, vous avez beaucoup parlé de la miséricorde au dernier cours, oui. Est-ce que ce raisonnement ne peut pas, au terme, justifier l'avortement et l'euthanasie? Non, pas du tout. Parce que c'est un manque de respect, l'euthanasie. C'est comme si vous dominiez l'autre. C'est une domination. C'est la domination de la science et de la technique. Donc c'est l'inverse de la miséricorde. La miséricorde est dans une lumière d'adoration. L'euthanasie.